Chapitre 241. La scène. Le surintendant avait sans doute reçu avis du prochain départ pour Nantes, car il donnait un dîner d'adieu à ses amis. Du bas de la maison jusqu'en haut, l'empressement des valets portant des plats et l'activité des registres témoignaient d'un bouleversement prochain dans la caisse et dans la cuisine. D'Artagnan, son bon à la main, se présenta dans les bureaux, où cette réponse lui fut faite qu'il était trop tard pour toucher, que la caisse était fermée. Il répondit par ce seul mot « Service du roi ». Le commis, un peu troublé, tant la mine du capitaine était grave, répliqua que c'était une raison respectable, mais que les habitudes de la maison étaient respectables aussi, qu'en conséquence, il priait le porteur de repasser le lendemain. D'Artagnan demanda qu'on lui fît voir M. Fouquet. Le commis riposta que M. le surintendant ne se mêlait point de ces sortes de détails et, brusquement, il ferma sa dernière porte au nez de D'Artagnan. Celui-ci avait prévu le coup et mit sa botte entre la porte et le chambranle, de sorte que la serrure ne joua point et que le commis se rencontra encore nez à nez avec son interlocuteur. Aussi changea-t-il de thème pour dire à D'Artagnan, avec une politesse effrayée, « Si monsieur veut parler à monsieur le surintendant, qu'il aille aux antichambres. Ici sont les bureaux où monseigneur ne vient jamais. »« À la bonne heure, dites donc cela, » répliqua D'Artagnan. « De l'autre côté de la cour, » fit le commis, enchanté d'être libre. D'Artagnan traversa la cour et tomba au milieu des valets. « Monseigneur ne reçoit pas à cette heure, » lui fut-il répondu par un drôle qui portait sur un plat de vermeil 3 faisans et 12 cailles. « Dites-lui, » fit le capitaine en arrêtant le valet par le bout de son plat, « que je suis M. D'Artagnan, capitaine-lieutenant des mousquetaires de Sa Majesté. » Le valet poussa un cri de surprise et disparut. D'Artagnan l'avait suivi à pas lents. Il arriva juste à temps pour trouver dans l'antichambre M. Pélisson qui, un peu pâle, venait de la salle à manger et accourait au renseignement. D'Artagnan sourit. « Ce n'est rien de fâcheux, M. Pélisson, rien qu'un petit bon à toucher. »« Ah !» fit en respirant l'ami de Fouquet. Et il prit le capitaine par la main, l'attira derrière lui et le fit entrer dans la salle, où bon nombre d'amis intimes entouraient le surintendant, placé au centre et enseveli dans un fauteuil à coussins. Là se trouvaient réunis tous les épicuriens qui, naguère, à Vaux, faisaient les honneurs de la maison, de l'esprit et de l'argent de M. Fouquet. Amis joyeux, tendres pour la plupart, ils n'avaient pas fui leur protecteur à l'approche de l'orage et, malgré les menaces du ciel, malgré le tremblement de terre, ils se tenaient là, souriants, prévenants, dévoués à l'infortune comme ils l'avaient été à la prospérité. À la gauche du surintendant, Madame de Bellière. À sa droite, Madame Fouquet. Comme si, bravant la loi du monde et faisant taire toute raison des convenances vulgaires, les deux anges protecteurs de cet homme se réunissaient pour lui prêter, à un moment de crise, l'appui de leurs bras entrelacés. Madame de Bellière était pâle, tremblante et pleine de respectueuses intentions pour Madame la surintendante, qui, une main sur la main de son mari, regardait anxieusement la porte par laquelle Pélisson allait amener D'Artagnan. Le capitaine entra, plein de courtoisie d'abord et d'admiration ensuite, quand, de son regard infaillible, il eut deviné, en même temps qu'embrassé, la signification de toutes les physionomies. Fouquet se soulevant sur son fauteuil, « Pardonnez-moi, dit-il, monsieur D'Artagnan, si je n'ai pas été vous recevoir comme venant au nom du roi. » Et il accentua ces derniers mots avec une sorte de fermeté triste qui pénétra d'effroi le cœur de ses amis. « Monseigneur, répliqua D'Artagnan, je ne viens pas chez vous au nom du roi, si ce n'est pour réclamer le paiement d'un bon de 200 pistoles. » Tous les fronts se déridèrent, celui de Fouquet resta seul obscurci. « Ah, dit-il, monsieur, vous partez aussi pour Nantes, peut-être ?»«
Je ne sais pas où je pars, monseigneur. »
« Mais, dit madame Fouquet rassérénée, vous ne partez pas si vite, monsieur le capitaine, que vous ne nous fassiez l'honneur de vous asseoir avec nous ?»«
Madame, ce serait un bien grand honneur pour moi, mais je suis tellement pressée que, vous le voyez, j'ai dû me permettre d'interrompre votre repas pour faire payer ma cédule. »
À laquelle il sera fait réponse par de l'or, dit Fouquet en faisant un signe à son intendant, qui, aussitôt, partit avec le bon que lui tendait d'Artagnan.
« Oh ! Fit celui-ci, je n'étais pas inquiet du paiement, la maison est bonne !»
Un douloureux sourire se dessina sur les traits pâlis de Fouquet.
« Vous souffrez ? Demanda madame de Bellière.
« Votre accès ? Demanda madame Fouquet.
« Rien, merci, répliqua le surintendant.
« Votre accès ? Fit à son tour d'Artagnan. « Est-ce que vous êtes malade, monseigneur ?
« J'ai une fièvre tierce qui m'a prise après la fête de Vaux.
« Quelque fraîcheur dans les grottes la nuit ?
« Non, non, une émotion, voilà tout.
« Le trop de cœur que vous avez mis à recevoir le roi, dit La Fontaine tranquillement, sans se douter qu'il lançait un sacrilège.
« On ne saurait mettre trop de cœur à recevoir le roi, dit doucement Fouquet à son poète.
Monseigneur a voulu dire le trop d'ardeur, interrompit d'Artagnan, avec une franchise parfaite et beaucoup d'aménité. Le fait est, monseigneur, que jamais l'hospitalité ne fut pratiquée comme à Vaux.
Madame Fouquet laissa son visage exprimer clairement que, si Fouquet s'était bien conduit envers le roi ne rendait pas l'appareil au ministre.
Mais d'Artagnan savait le terrible secret. Il le savait seul avec Fouquet. Ces deux hommes n'avaient pas, l'un le courage de plaindre l'autre le droit d'accuser. Le capitaine, à qui l'on apporta les 200 pistoles, allait prendre congé, quand Fouquet, se levant, prit un verre et en fit donner un à d'Artagnan.
« Monsieur, dit-il, à la santé du roi, quoi qu'il arrive !»«
Et à votre santé, monseigneur, quoi qu'il arrive !» dit d'Artagnan en buvant.
Il salua sur ces paroles de mauvais augure toute la compagnie, qui se leva dès qu'il eut fait son salut, et on entendit ses éperons et ses bottes jusque dans les profondeurs de l'escalier.
« J'ai cru un moment que c'était à moi et non à mon argent qu'il en voulait, » dit Fouquet en essayant de rire.
« À vous ? » s'écrièrent ses amis. « Et pourquoi, mon Dieu ?»«
Oh ! » fit le surintendant, « ne nous abusons pas, mes chers frères en Épicure. Je ne veux pas faire de comparaison entre le plus humble pêcheur de la terre et le Dieu que nous adorons, mais, voyez-vous, il donna un jour à ses amis un repas qu'on appelle la scène et qui n'était qu'un dîner d'adieu, comme celui que nous faisons en ce moment. »
Un cri, douloureuse dénégation, partit de tous les coins de la table.
« Fermez les portes !» dit Fouquet. Et les valets disparurent. « Mes amis, continua Fouquet en baissant la voix, qu'étais-je autrefois ? Que suis-je aujourd'hui ? Consultez-vous et répondez. Un homme comme moi baisse par cela même qu'il ne s'élève plus. Que dira-t-on quand il s'abaisse réellement ? Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de crédit, je n'ai plus que des ennemis puissants et des amis sans puissance.
Vite ! S'écria Pélisson en se levant. Puisque vous nous expliquez avec cette franchise, c'est à nous d'être francs aussi. Oui, vous êtes perdus. Oui, vous courez à votre ruine, arrêtez-vous. Et tout d'abord, que nous reste-t-il en argent ?
700 000 livres, dit l'intendant.
Du pain, murmura madame Fouquet.
Des relais, dit Pélisson, des relais, et fuyez.
Où cela ?
En Suisse, en Savoie, mais fuyez.
Si monseigneur fuit, dit madame de Bellière, on dira qu'il était coupable et qu'il a eu peur.
On dira plus, on dira que j'ai emporté 20 millions avec moi.
Nous ferons des mémoires pour vous justifier, dit La Fontaine. Fuyez.
Je resterai, dit Fouquet. Et d'ailleurs, tout ne me sert-il pas?
Vous avez Belle-Île, cria l'abbé Fouquet.
Et j'y vais naturellement en allant à Nantes, répondit le surintendant.
Patience donc, patience.
Avant Nantes, que de chemin, dit madame Fouquet.
Oui, je le sais bien, répliqua Fouquet. Mais qu'y faire? Le roi m'appelle aux États. Je sais bien que c'est pour me perdre. Mais refuser de partir, c'est montrer de l'inquiétude.
Eh bien, j'ai trouvé le moyen de tout concilier, s'écria Pélisson. Vous allez partir pour Nantes.
Fouquet le regarda d'un air surpris.
Mais avec des amis. Mais dans votre carrosse jusqu'à Orléans, dans votre gabarre jusqu'à Nantes. Toujours prête à vous défendre si l'on vous attaque, à échapper si l'on vous menace. En un mot, vous emportez votre argent pour toute chance, et tout en fuyant, vous n'aurez fait qu'obéir au roi. Puis, touchant la mer quand vous voudrez, vous embarquerez pour Belle-Île, et de Belle-Île, vous vous élancerez où vous voudrez, pareil à l'aigle qui sort et prend l'espace quand on l'a débusqué de son air.
Un assentiment unanime accueillit les paroles de Pélisson.
« Oui, faites cela !» dit madame Fouquet à son mari.
« Faites cela !» dit madame de Bellière.
« Faites, faites !» s'écrièrent tous les amis.
« Je le ferai !» répliqua Fouquet.
« Dès ce soir,
dans une heure,
sur le champ.
« Avec 700 000 livres, vous recommencerez une fortune, » dit l'abbé Fouquet.
« Qui nous empêchera d'amener des corsaires à Belle-Île ?»«
Et s'il le faut, nous irons découvrir un nouveau monde, » ajouta La Fontaine, ivre de projets et d'enthousiasme. Un coup frappé à la porte interrompit ce concours de joie et d'espérance.
« Un courrier du roi !» cria le maître des cérémonies.
Alors il se fit un profond silence, comme si le message qu'apportait ce courrier n'était qu'une réponse à tous les projets enfantés l'instant d'avant. Chacun attendit ce que ferait le maître, dont le front ruisselait de sueur et qui, véritablement, souffrait de sa fièvre. Fouquet passa dans son cabinet pour recevoir le message de Sa Majesté. Il y avait, nous l'avons dit, un tel silence dans les chambres et dans tout le service que l'on entendait la voix de Fouquet qui répondait
« C'est bien, monsieur !»
Cette voix était pourtant brisée par la fatigue, altérée par l'émotion. Un instant après, Fouquet appela Gourville, qui traversa la galerie au milieu de l'attente universelle. Enfin, il reparut lui-même parmi ses convives, mais ce n'était plus le même visage, pâle et défait, qu'on lui avait vu au départ. De pâle, il s'était fait livide, et de défait, décomposé. Spectre vivant, il s'avançait, les bras étendus, la bouche desséchée, comme l'ombre qui vient de saluer des amis d'autrefois. À cette vue, chacun se leva, chacun s'écria, chacun courut à Fouquet. Celui-ci, regardant Pélisson, s'appuya sur la surintendante et serra la main glacée de la marquise de Bellière.
Eh bien, fit-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain.
Qu'arrive-t-il, mon Dieu ? Lui dit-on. Fouquet ouvrit sa main droite, qui était crispée, humide. On y vit un papier sur lequel Pélisson se jeta épouvanté. Il y lut les lignes suivantes de la main du roi.
Cher et aimé monsieur Fouquet, donnez-nous, sur ce qui vous reste à nous, une somme de 700 000 livres dont nous avons besoin ce jour-là pour notre départ. Et comme nous savons que votre santé n'est pas bonne, nous prions Dieu qu'il vous remette en santé et vous ait en sa sainte et digne garde. Louis. La présente lettre est pour reçue.
Un murmure d'effroi circula dans la salle.
Eh bien, s'écria Pélisson à son tour, vous avez cette lettre ?
J'ai le reçu, oui.
« Que ferez-vous alors ?»«
Rien, puisque j'ai le reçu. »«
Mais, si j'ai le reçu, c'est que j'ai payé, » fit le surintendant avec une simplicité qui arracha le cœur aux assistants.
« Vous avez payé ?» s'écria Madame Fouquet au désespoir. « Alors, nous sommes perdus !»«
Allons, allons, plus de mots inutiles !» interrompit Pélisson. « Après l'argent, la vie. Monseigneur, à cheval, à cheval !»«
Nous quitter ?»
crièrent à la fois les deux femmes, ivres de douleur.
« Ah, monseigneur, en vous sauvant, vous nous sauvez tous, à cheval !»«
Mais il ne peut se tenir, voyez !» Et, si l'on réfléchit, dit l'intrépide Pélisson.
« Il a raison, » murmura Fouquet.
« Monseigneur, monseigneur !» cria Gourville en montant l'escalier par 4 degrés à la fois.
« Monseigneur !»«
Eh bien, quoi ?
J'escortais, comme vous savez, le courrier du roi avec l'argent. »«
Oui ?
Eh bien, arrivé au palais royal, j'ai vu. »«
Respire un peu, mon pauvre ami, tu suffoques. »
Qu'avez-vous vu ? Crièrent les amis impatients.
J'ai vu les mousquetaires monter à cheval, dit Gourville.
Voyez-vous ? S'écria-t-on. Voyez-vous ? Y a-t-il un instant à perdre ?
Madame Fouquet se précipita par les montées en demandant ses chevaux. Madame de Bellière s'élança pour la prendre dans ses bras et lui dit :
Madame, au nom de son salut, ne témoignez rien, ne manifestez aucune alarme.
Pélisson courut pour faire atteler les carrosses. Et, pendant ce temps, Gourville recueillit dans son chapeau ce que les amis pleurants et effarés purent y jeter d'or et d'argent, dernière offrande, pieuse aumône faite au malheur par la pauvreté. Le surintendant, entraîné par les uns, porté par les autres, fut enfermé dans son carrosse. Gourville monta sur le siège et prit les rênes. Pélisson contint Madame Fouquet évanouie. Madame de Bellière eut plus de force, elle en fut bien payée, elle recueillit le dernier baiser de Fouquet. Pélisson expliqua facilement ce départ précipité par un ordre du roi qui appelait les ministres à Nantes.